Les rêves, c'est précieux. On expérimente plein de choses. C'est les voies qu'on n'a pas prises dans le réel.
Moi, je crois que c'est quelque chose d'exquis de se dire qu'on a écrit une lettre à des amis ou qu'on a un travail à faire et de ne pas le faire en disant qu'on préfère volontairement laisser les choses se faire toutes seules ou bien peut-être par les autres.
Dans le Diwa, du 14 au 19 septembre, à l'initiative du théâtre Les Airs, à Dix, ont eu lieu les voisinades artistiques, où une quinzaine de compagnies de spectacles du Diwa ont eu la possibilité, enfin, de présenter leur création au public, et précisément dans leur espace de création ou environnant propre à chacune. Et ce, malgré le contexte encore difficile de l'urgence sanitaire. Air Diwa s'est associé à ses voisinades en effectuant des captations sonores et d'entretiens avec les artistes. Ainsi, tour à tour, ils ont répondu à une série de questions, notamment sur la présentation de leurs projets artistiques, leurs propositions pour les voisinades, l'intérêt de ce partenariat avec le théâtre, l'adaptation des spectacles sur un espace public, la relation avec le voisinage et son interaction avec ce dernier. Et pour terminer, leur perspective quant à la création du spectacle vivant. Bonne écoute.
Émilie Dubois, quelle compagnie êtes-vous ?
Alors, je travaille parfois avec la compagnie Sarasvati. Et pour ce projet, j'ai travaillé avec Gaspard Pocaille. Donc deux électrons libres, Gaspard qui joue du bandoneon, et je me suis donc attelée à lire une pièce, un monologue de Bernard-Marie Coltès, La nuit juste avant les forêts, un long extrait, ou plusieurs extraits plutôt de ce texte, et à la toute fin, nous avons eu la surprise de voir une danseuse, Carolina Vasconcelos, qui nous a rejoint pour ce projet.
Comment avez-vous rencontré ce musicien qui vient sans doute de très loin ?
Oui, Gaspard, il vient d'Argentine, mais il habite maintenant le Diwa. Alors je l'ai rencontré tout simplement en allant danser. Je suis une grande danseuse. Donc je l'ai rencontré lors de soirées de tango et je trouvais que son univers et aussi son joli petit accent correspondaient vraiment au travail qui était en cours, puisque le personnage de La nuit juste avant les forêts est un homme qui est peut-être étranger, on ne sait pas. Alors je trouvais que travailler avec quelqu'un qui a cet accent et cet univers de l'ailleurs correspondait vraiment au projet en cours.
Pourquoi ce texte ?
Parce que c'était un texte très profond et très puissant, qui date de 1977, mais que je trouve toujours très d'actualité. Et il m'a paru vraiment essentiel de pouvoir le faire entendre même au fond du Diwa, même dans une campagne, alors qu'en fait c'est un texte qui parle de l'urbanité, de la solitude dans les grandes villes, mais je trouve qu'il est toujours très, très actuel et ça fonctionne dans tous les lieux. Enfin, en tout cas, ça a été l'idée de départ. Quel texte choisir de cet auteur ? Parce que ça fait un moment que je travaille autour et à partir des œuvres de Bernard-Marie Coltès. Et l'idée de travailler aussi in situ, dans des villages, justement, c'était un projet auquel j'avais déjà été associée il y a fort longtemps, et avec le même auteur. Donc ça se passait à l'époque en Guadeloupe, j'étais assistante à la mise en scène sur un projet de traduction de pièces de Coltès et d'autres auteurs en créole, et on allait les présenter dans les villages. Alors que c'était la scène nationale, le théâtre qui se déplaçait dans les villages. Donc voilà, il y avait une résonance avec comment un théâtre peut aller au fond d'une région, dans des villages où les gens ne vont pas forcément souvent au théâtre, ou ne sont pas forcément confrontés à des textes contemporains aussi adulés, entre guillemets, dans un monde très précis du théâtre. Mais en fin de compte, ce sont des textes peu connus. Même d'ailleurs auprès de gens qui vont souvent au théâtre, ce texte-là, il n'est pas très très connu. Et moi, j'avais vraiment envie de le retravailler. Et puis, il s'agissait aussi de confronter ma voix de femme à un texte qui a été écrit pour un homme. C'est une poétique, c'est un texte, c'est une langue qui résonne très fort, mais qui est... C'est une langue très particulière parce que ce texte-là, l'homme parle de manière parfois très familière, voire très crue. Et ce qu'il dit est très, très remarquable sur l'état du monde, l'état de solitude du monde occidental, l'état de difficulté de rencontrer autrui, de parler, de se faire entendre, d'être écouté. Donc bon, c'est un texte, on n'a pas fini de le découvrir. Moi, j'ai choisi quelques extraits parce qu'il y avait la contrainte des 45 minutes. Donc je ne pouvais pas présenter le texte entier qui dure au moins une heure et demie. De plus, je travaille avec un musicien, donc évidemment, il a fallu réduire. Mais ce qui m'intéressait particulièrement dans l'œuvre de Coltès, et dans celle-ci en particulier, c'est le regard, c'est la vision des femmes. C'est surtout le regard de ce dramaturge Bernard-Marie Coltès, qui ne parle pas particulièrement de personnages féminins dans cette pièce ou dans d'autres, mais moi j'ai choisi des extraits où le personnage principal parle de femmes. Que ce soit une femme rencontrée dans un café qui le trahit outrageusement et qui est, comme il dit, du côté des salauds, ou alors cette jeune femme, son amour qu'il rencontre sur un pont une nuit qu'il ne retrouve plus jamais, ou alors cette femme, la putain, comme il dit, qui est maltraitée et qui est même un personnage presque drôle, puisque il ne cesse de répéter comment croire ça d'une pute, si même les putes se mettent à devenir folles, comment croire ça, parce que dans ce texte il y a aussi des passages qui peuvent être drôles. Et puis il y a aussi ce nom Mama qui est écrit sur les murs, et toujours cette résonance autour de personnages féminins fantasmagorique ou réel, on ne sait pas. En tout cas, moi, j'ai voulu plus mettre un éclairage sur ces personnages-là.
Donc la rencontre.
Oui. En tout cas, il fallait prendre une vision à fil conducteur et j'ai choisi cela, oui, pour cette proposition qu'on a pu faire dans mon village à Minglon. Alors la difficulté aussi, c'était que ce texte, il est peut-être un peu difficile. Alors il n'était pas proposé aux oreilles enfantines. On a décidé de dire qu'on pouvait l'écouter à partir de 15 ans. Alors ça limitait un peu le public, évidemment. Et ça faisait partie des contraintes proposées.
Couché sur le rebord du pont, à midi c'est plein de bruit et de flics. On ne peut pas rester, on ne peut pas bouger en plein milieu d'un pont. Alors dans la journée, j'ai écrit sur les murs. Maman, je t'aime, sur tous les murs pour qu'elle ne puisse pas ne pas l'avoir lu. Je serai sur le pont, maman, toute la nuit, le pont de l'autre nuit, tout le jour j'ai couru comme un fou. Reviens, maman, reviens, maman. Et la nuit j'ai attendu en plein milieu du pont. Et dès qu'il a fait jour, j'ai recommencé. Les murs, tous les murs. Que ce ne soit pas possible! Pas possible qu'elle ne tombe pas dessous. Reviens sur le pont, maman, reviens une seule petite fois, reviens une minute pour que je te voie, maman, mais merde! Comme un con, j'ai attendu une nuit, deux nuits, trois nuits plus, j'ai fouillé tous les ponts, j'ai couru de l'un à l'autre, plusieurs fois chaque nuit. Il y a 31 ponts sans compter les canaux. Et le jour j'écrivais, les murs étaient remplis. Maman, elle pouvait pas ne pas m'avoir lu. Mais merde! Elle n'est pas venue. Elle ne viendrait plus. Mais j'ai continué à écrire sur les murs. Hein. J'ai continué à fouiller tous les ponts. Il y a 31 ponts sans compter les canaux. Et je ne l'ai plus jamais retrouvée. Penchée au-dessus de l'eau. Et maintenant, moi, ces histoires-là, cela me sape le moral. Et je connais une femme. Je connais une femme qui est morte parce que ça allait si loin.
Thank you.
jouer ce texte à Minglon, sous l'abri de la fontaine, qu'est-ce que ça vous a permis ?
Bah, c'était un décor un peu surréaliste, bon, qui a été choisi parce qu'il était demandé aussi d'avoir un projet dans le centre du village, dans un lieu ouvert au public. Moi, j'avais pensé éventuellement à un autre lieu, mais la difficulté qui m'apparaissait, c'était la météo. Je me disais, si la pluie arrive, comment faire ? Donc, je voulais absolument trouver un endroit abrité. Il s'avère que des granges repérées n'étaient pas forcément possibles. Alors, voilà, j'ai choisi l'abri du lavoir. C'est un lieu, certainement, où pendant des siècles, les femmes qui venaient laver leur linge parlaient beaucoup. Donc, ce lieu-là résonnait probablement des paroles anciennes. Et puis, c'est toujours un lieu de rencontre. Hein. Il y a une table, justement, qu'on a utilisée, nous, pendant les répétitions et qu'on a finalement déplacée pour jouer de façon à laisser plus d'espace. Mais elle a été utilisée, cette table en bois, pour asseoir aussi le public. Et puis, oui, ce lieu, bah, il y a aussi de l'eau qui coule, donc ça, c'est aussi inspirant. Et puis bon, il faut savoir aussi que j'étais très obsédée par ce problème de la météo, parce que de toute façon, il y avait une résonance avec le texte, parce qu'en fait, ça se passe la nuit et ça se passe sous la pluie. Donc ça, c'était idéal de se dire, bon, on est dans un endroit couvert, et s'il pleut réellement le 15 septembre, bah, on sera protégé. Et puis par ailleurs, ce lieu se prêtait merveilleusement finalement à ce projet, puisqu'il y avait une très belle écoute, une très belle résonance qui permettait une belle écoute.
Pourquoi avez-vous accepté de participer à cette proposition donc, du théâtre Les Airs, qui a emmené toute une communauté de créateurs, d'artistes dans des lieux publics et des petits endroits, des villages ?
Ah, je trouvais ça très intéressant de se confronter au public de son propre village, de travailler près de chez soi, sachant que moi j'avais passé quelques mois hors du Diwa, là je revenais, et puis ça me paraissait très, très, très sympathique de pouvoir travailler près de chez soi, et voir ce qui allait advenir.
Et ça vous a permis de nouvelles rencontres ?
Oui, très peu, mais quand même, bien sûr, les gens du village, lors des répétitions, les jeunes ados venaient voir, se demandaient ce qui se passait, nous entendaient répéter, nous entendaient la musique, le bandoneon, même l'accordéon. À un moment, j'ai répété aussi avec un accordéon pour voir le son, pour se rendre compte du son. Donc oui, il y avait de la curiosité, les gens demandaient, mais que se passe-t-il ? Parce que bon, à Minglon, il y a un lieu qui est d'habitude ouvert, c'est le bar à boc, et il y a une petite scène, et voilà, les gens ont plutôt l'habitude d'aller dans ce lieu-là pour écouter des projets théâtraux ou de la musique.
Le théâtre dans la rue, dans des espaces publics ouverts, ça permet quoi ?
ça ouvre à plus un public bien plus large, peut-être, parce qu'il y a des personnes qui ne vont jamais au théâtre, et surtout pour écouter ce type de texte qui est un peu exigeant. Bah, ça sert à quoi ? Ça sert à croiser, oui, effectivement, à voir des publics qui sont plus proches de soi.
Et la suite maintenant, comment vous l'imaginez ? Comment vous la rêvez ?
Moi, j'aimerais beaucoup continuer ce type de projet, pas seulement dans mon village, dans tous les villages du Diwa, porter d'autres textes, faire entendre d'autres lectures musicales, comme on l'a fait pour ce projet. Il y a tellement d'auteurs à faire entendre, vraiment, tout est possible. Bon, en plus, moi, j'ai participé à des ateliers qui ont eu lieu ici, là, dans cet espace même du théâtre de Di, avec Yann Boudot, grand comédien qui est venu donc mener des enregistrements de pièces théâtrales, de classiques, qui sont mises en ligne actuellement sur Radio Diwa. J'ai envie de continuer dans cette lignée, tout à fait, c'est tout à fait les projets qui me plaisent beaucoup.
Merci Émilie Dubois, La nuit juste avant les forêts. Juste, est-ce que vous avez le souvenir d'un extrait de texte ?
Je peux dire que peut-être cette fameuse phrase à la fin, j'ai cherché un ange dans tout ce bordel, je t'ai trouvé, camarade.